CFM, le MAG, la vie du pays Midi-Quercy.
Le MAG du pays Midi-Quercy, une émission soutenue par le programme européen Leader et réalisée à CFM Caylus.
Bonjour, bonjour et merci d'être avec nous dans ce MAG du Pays Midi-Quercy. Aujourd'hui, on vous parlera abeilles, miel et ruchers avec la rencontre de Biotope dans la chronique Les Circuits Courts. Bonjour, dans la deuxième partie de cette édition. Avant ça, on vous propose la conférence des maires et des élus. Ce sera ce 7 juillet à Montpezat. Une fois par an, le Pays Midi-Quercy rend compte de ses activités à l'ensemble des élus de son territoire. Une occasion de mesurer concrètement l'action du PETR, d'envisager l'avenir et de pouvoir échanger avec les autres élus locaux. La prochaine conférence des maires et des élus, c'est ce 7 juillet à Montpezat de Quercy. Et on en parle aujourd'hui avec Corinne Trévisan, la chargée de communication du PETR. Bonjour Corinne.
Bonjour Lisa.
Vous allez surtout célébrer le Pays d'art et d'histoire.
Oui. Exactement. En fait, cette année, on a voulu un petit peu changer le concept de la conférence des maires. On le veut plus interactif, plus concret pour amener nos élus vraiment à échanger sur la base de témoignages et d'échanges d'expériences, de partage. Donc, qu'est-ce qui a marqué l'année 2021 pour le Pays Midi-Quercy? C'est vraiment la concrétisation du label Pays d'art et d'histoire. C'est vraiment le dépôt de la candidature et voilà, jusqu'à l'oral et jusqu'à l'obtention du label. Donc, le thème principal de cette année sera l'échange d'expérience et bien sûr la mise à l'honneur du Pays d'art et d'histoire.
Un moment où les élus peuvent témoigner, on n'assiste pas à un PowerPoint des chiffres et on ne s'en dort pas sur sa table.
Exactement, c'est ça le principe. On a voulu cette année que finalement les actions du pays, que ce soit les élus qui en parlent aux autres élus qui seront là, comment le pays a pu les accompagner, comment le pays a pu les aider à concrétiser leurs projets, et surtout que les élus se nourrissent de l'expérience d'autres du témoignage d'autres élus sur des projets qui peuvent les intéresser, par exemple sur la santé. Cette année on va faire témoigner deux élus qui ont mis en place des centres de santé ou des maisons de santé, comment elles ont fait, comment elles y sont arrivées, et dans ces cas-là les élus pourront échanger sur ce sujet-là, quelle est la première étape, comment je peux y arriver, également sur le thème de la transition écologique, par exemple sur la approvisionnement des cantines. Un élu va expliquer comment ça a été expérimenté dans sa commune, comment ils ont travaillé avec les cantiniers, comment ça s'est mis en place, voilà, quelles sont les étapes, de façon très concrète et avec un langage que les élus comprennent entre eux, parce que voilà, ils ont le même statut et finalement ils peuvent échanger très librement. Voilà, on a voulu que ce soit un échange libre et que chacun puisse se retrouver dans les propos de l'autre. Mmh.
Le pays qui rend des comptes, donc une fois par an, à l'ensemble des communautés de communes, des mairies, des municipalités, des élus qui le composent, un pays Midi-Quercy qui n'existerait pas si les trois communautés de communes de Quercy-Rouergorge-de-l'Aveyron, Quercy-Caussadet et Quercy-Vert-Aveyron ne le souhaitaient pas.
Exactement. Le Pays Midi-Quercy a été créé sur la volonté des trois communautés de communes citées pour travailler ensemble sur des problématiques ou des thématiques communes, pour mutualiser des moyens sur des sujets, pour faire effet levier et pouvoir chercher des financements, par exemple sur des actions communes. Donc effectivement, c'est une volonté des élus de ces trois communautés de communes de travailler ensemble via le Pays Midi-Quercy,
qui lui est composé non pas d'élus mais de techniciens.
Alors, il est composé effectivement d'une équipe technique d'à peu près 20 personnes sur des thématiques très variées. La transition écologique est une thématique très importante chez nous. La culture, bien sûr, le patrimoine, le tourisme, l'emploi, l'insertion, l'alimentation qui est aussi une thématique importante. Voilà, on en a à peu près une dizaine comme ça de thématiques sur lesquelles on travaille en binôme avec les communautés de communes, les communes et bien sûr avec l'approbation et les orientations de nos élus, voilà, qui nous suivent sur tous ces sujets.
Et qui vont donc se rencontrer ce 7 juillet à Montpezat, c'est la conférence des maires et des élus. Mais si le public veut en savoir plus un petit peu et s'investir dans ce qu'initie le Pays Midi-Quercy, bah il faut faire partie du Conseil de développement territorial.
Exactement, c'est la spécificité du Pays Midi-Quercy. On a un organe exécutif composé d'élus, mais on a aussi un organe consultatif qui est composé de citoyens, d'habitants du territoire qui s'investissent à nos côtés sur des sujets, sur des projets sur lesquels ils peuvent intervenir, ils peuvent vraiment agir. Donc effectivement, si vous êtes intéressé pour travailler sur des sujets très variés comme l'alimentation, la transition écologique, le tourisme, etc., vous pouvez bien sûr vous investir à nos côtés en participant avec les membres du conseil de développement aux différentes sessions de travail avec parmi toutes celles qu'on peut mettre en place dans l'année et vous avez toute votre place au sein de l'équipe du conseil de développement.
Le pays, en quelques chiffres, rapporte concrètement de l'argent via les subventions auxquelles vous avez droit, les subventions auxquelles vous postulez, tout simplement, génère donc du financement aux communautés de communes, aux municipalités qu'ils composent.
Donc quand une communauté de communes investit 1 euro dans le pays, il en rapporte 25 euros en aide publique directe. Pour être plus précis, le pays rapporte 152 euros par an et par habitant, ce qui est quand même conséquent, ce qui amène la possibilité de développer beaucoup de projets et de réaliser des choses concrètes sur le terrain.
Autant en aide publique comme de l'aide à la transition énergétique d'une école ou bien à une brasserie qui souhaite s'installer sur un territoire, des aides donc publiques qui peuvent aussi être privées, qui peuvent être sollicitées par donc des associations, des collectivités, je le disais, des particuliers qui génèrent des projets innovants et de territoire. On est là dans le cœur des actions du PETR.
Exactement. Ça s'adresse, évidemment, le Pays Midi-Quercy peut aider, accompagner des porteurs de projets privés via le programme LEADER. Nous accompagnons des projets vraiment très variés, comme l'installation d'un boulanger, d'un marché, ou alors d'un gîte qui pourrait être labellisé écotourisme. Voilà, c'est vraiment très varié, comme on peut aider des collectivités à rénover énergétiquement, thermiquement leurs bâtiments pour faire des économies d'énergie et donc avoir un bilan carbone beaucoup plus soutenable. Voilà, c'est vraiment très varié. On a un champ d'action assez large et assez intéressant. Et c'est vrai que le Pays Midi-Quercy, aux côtés des collectivités, permet des projets concrets.
On peut retrouver tous les domaines d'action du PETR, du Pays Midi-Quercy et les moyens de vous contacter, de soumettre un projet, de pouvoir s'investir dans le Conseil de développement territorial en tant que citoyen sur le site www.paysmidi-quercy.fr. Corinne Trévisan, vous en êtes chargée de communication. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Lisa. 1, 2, 3. Yeah. Two to four to show. Three, nine, nine, nine. Go, go, go. But don't you step on my blue suede shoe. Really can do anything, but don't step on my blue suede shoe. Well, you can knock me down, step on my face, slam my name all over the place. Do anything that you wanna do, but on the hand, lay all my love. But don't you step on my blue suede shoe.
Bonjour.
Bonjour.
Les circuits courts, bonjour, avec Marie Brandy. Bonjour Marie.
Bonjour Lisa. Nous sommes aujourd'hui à Puy-la-Roque. Nous continuons le tour des signataires de la charte des producteurs en pays Midi-Quercy. Et nous visitons actuellement l'exploitation de Gianni Costanzo, Biotop. Donc c'est une miellerie avec de nombreuses ruches. Et Gianni, est-ce que vous pouvez nous expliquer depuis quand vous avez démarré l'exploitation, comment vous êtes venu à faire du miel et comment ça fonctionne?
Bonjour, je me suis installé en 2013 officiellement. J'avais commencé à avoir quelques ruches en 2011 et en 2013 j'ai fait le pas pour m'installer en tant qu'apiculteur professionnel à Puy-la-Roque, donc sur l'exploitation que je construis depuis 6 ans maintenant. À ce jour, j'ai un cheptel de 300 colonies sur lesquelles j'ai produit différents miels, toutes fleurs, acacia, châtaignier, enfin, différentes toutes fleurs aussi, de la propolis, un peu de pollen et un peu de gelée royale quand je peux.
Ça sent bon, on est où?
On est dans la, ben là, on est directement dans la miellerie. Donc la miellerie, c'est l'atelier dans lequel on va extraire le miel qu'on a récolté dans les ruches. On a une machine à désoperculer les cadres de miel, parce que le miel est fermé, les alvéoles qui sont remplies de miel sont fermées par une fine pellicule de cire. C'est une phase qui peut être faite à la main, avec un couteau à désoperculer ou une herse manuelle. C'est quand même beaucoup plus long de le faire sous cette méthode-là. Et quand on a fait une bonne récolte, quand ça arrive, c'est beaucoup mieux de faire avec une machine de désoperculer. C'est la machine centrale que l'on voit qui va nous permettre donc de faire cette phase automatiquement en amenant chaque cadre individuellement sur l'entrée de la machine. Et en ressortant, les cadres vont être complètement désoperculés. Le miel va pouvoir être éjecté des rayons. Ensuite, le cadre, on va le mettre dans un extracteur. Donc, c'est les machines que vous voyez de part et d'autre de la machine à désoperculer. Donc, c'est des centrifugeuses. C'est une grosse machine à essorer qui va donc éjecter le miel des rayons. C'est par la vitesse de centrifuge, le miel va être éjecté des rayons, va se coller sur les parois et par dégouttement va descendre. Et ensuite, on passe par une phase de filtration. Donc le miel, elle a déjà été éjecté des rayons. Et donc moi, en tout cas, je travaille avec trois niveaux de filtration. Un premier avec un bac de filtration sur lequel on a des gros tamis où on va déjà retenir la plupart des grosses particules de cire qui existent. Voilà. Après la filtration, on enlève des impuretés, mais comme je vous disais, c'est 95% de cire. Et le reste, c'est y a toujours des petites pattes d'abeilles ou des morceaux d'abeilles, même si on évite de les blesser, mais il y en a toujours quelques peu. Donc là, c'est une première filtration. Et après, le miel, il est pompé et rééjecté par une deuxième filtration, là, beaucoup plus fine. On passe par des chaussettes à microns, que l'on voit en haut, là. Vous voyez, ces chaussettes, le miel va rentrer dans ces chaussettes. Et par écoulement, on va retomber dans le deuxième bac décanteur. Et là, on a une filtration très fine. Donc là, on a quasiment plus que du miel. Et ensuite, le miel va être sortir de ce bac et rentrer dans un maturateur. C'est les grosses barriques en inox que vous voyez devant. On peut mettre même en plus un troisième stade de filtration pour vraiment finir la filtration. C'est un tamis, en fait, qu'on vient poser au-dessus du maturateur. Et donc là, le miel ensuite, il est prêt à être stocké. Voilà, moi, je passe par une phase de maturation, selon les miels, entre un mois et demi minimum, avant de pouvoir le proposer à la vente. Parce qu'on a toujours des micro-particules de cire qui vont remonter, de l'écume qui va remonter à la surface. Et ça, il va falloir faire régulièrement, écumer le dessus du miel pour enlever. Alors, ça peut être bon à manger, mais visuellement, dans les pots de miel, après, ça peut se voir et c'est moins joli pour le client, on va dire, même si ça n'a aucun risque.
Donc, on a vu toutes ces machines, il y en a énormément, toutes différentes, avec même une abeille qui se promène, là, qui, on dirait qu'elle fait le contrôle sécurité, qu'elle vient piocher un peu de miel. Et du coup, quand les gens viennent, parce qu'ils peuvent venir, hein, c'est ça, chercher du miel directement à la ferme, on peut visiter.
Donc je fais de la vente directe deux après-midi par semaine, le mercredi après-midi et le samedi après-midi, de 14h à 18h. Voilà, en dehors de ces créneaux, il faut prendre rendez-vous parce que je suis pas toujours disponible. Et pendant ce temps ouvert au public, les gens peuvent déjà venir visiter la miellerie à travers les baies vitrées. On peut déjà, ils peuvent déjà se donner un aperçu des outils utilisés et de ce que peut être un atelier dans une exploitation apicole. Et ensuite, à terme, d'ici peu, il va y avoir une salle d'exposition qui va être ouverte avec un accès libre pour les personnes, sur lequel il y aura un circuit pédagogique autour de l'apiculture, de l'abeille, pour découvrir un peu plus en détail le monde des abeilles. Voilà, il y aura une ruche vitrée que les gens pourront observer en toute sécurité. Ça, ce sera un accès libre les deux jours par semaine d'ouverture. Voilà. Et à terme, on peut aussi recevoir des groupes à partir de 10 personnes pour passer une demi-journée sous réservation avec moi, et dans lesquels on peut intervenir, expliquer plus en détail et rentrer plus dans le cœur du métier d'apiculteur. Voilà.
Une vraie visite pédagogique, alors. Et vos abeilles, elles butinent où ?
Alors, j'ai plusieurs zones de butinage pour les abeilles. On va commencer au début de l'hivernage. Elles vont rentrer toutes sur le secteur de Puy-la-Roc, sur différents ruchers. Mais elles vont hiverner sur Puy-la-Roc, ce qui me facilite les visites d'hiver et de début de saison au printemps, pour lesquelles on fait l'état du cheptel. On voit quelles colonies on a récupérées, quel état elles sont, les forces de chacune. Voilà, pour déjà choisir celles qui vont éventuellement produire rapidement du miel, celles qui ne pourront pas et qu'il faut sauver ou rattraper, changer les rennes. Voilà, donc le début de saison, la production de début de printemps, elle se fait sur Puy-la-Roc, au mois d'avril, si la météo est clémente, ce qui n'est pas le cas de 2019. Mais d'habitude, on arrive à faire du miel en fin avril, donc ça va être les fleurs sauvages. Il y a pas mal de pissenlits en ce moment, début de saison, les pruneliers, tout ce qui peut sortir des champs du pays Midi-Quercy. Voilà. Et après, une partie du cheptel va aller en production de miel d'acacia. Donc là, hélas, on n'a rien sur Puy-la-Roc, donc il faut transhumer les abeilles. Je reste en Tarn-et-Garonne, ça va être sur des secteurs proches de Mirabel ou de Léojac, sur lesquels on a des zones intéressantes pour pouvoir produire du miel d'acacia. Sur ces maisons, et après, quasiment sur les mêmes zones, on peut faire du châtaignier aussi. Et après, en début d'été, elles sont rapatriées, là c'est ce qui est en cours en ce moment, elles sont rapatriées sur le secteur de Nord-Cossa, depuis la Roque, pour le miel d'été, essentiellement tournesol.
Et comment vous savez où elles vont butiner, vos abeilles, et si c'est du miel de châtaignier ou de tournesol ?
D'accord. Alors ça, c'est toujours la question. La nature est quand même bien faite, parce que si on fait ces miels-là, c'est parce que les floraisons sont pas en même temps, quoi. Sinon, on pourrait pas faire du miel de châtaignier, du miel de tournesol, ou du miel de châtaignier, du miel d'acacia. Donc, en fait, les floraisons se succèdent. Mais la règle de base, c'est d'amener beaucoup de ruches, tant qu'on peut, sur une zone dans laquelle il y a beaucoup d'acacia, si je fais la mielée d'acacia. Essentiellement, si vous mettez un rucher au milieu de bois d'acacia, elles vont aller majoritairement sur les fleurs d'acacia. elles vont au plus facile, au meilleur rendement pour elles. Voilà. Après, il faut bien se dire que on met en miel d'acacia, miel de cru, ce qu'on appelle miel de châtaignier, miel de rose, c'est jamais 100% du nectar de la fleur affichée. C'est impossible. Parce que selon les abeilles, elles vont aller voir d'autres fleurs sur le passage. Voilà. Mais majoritairement, il y a des taux légaux qui existent sur lesquels on a le droit d'afficher la dénomination de tel miel. Voilà. Après, il faut passer par des analyses de laboratoire pour se faire confirmer. Mais déjà, avec l'habitude, à l'extraction, on voit si le miel il est plus ou moins trouble, si c'est de l'acacia. Le goût, la texture, la couleur, on voit tout de suite. À peu près, en tout cas pour l'acacia et la châtaignier, c'est deux miels complètement différents en termes de couleur et de goût. Donc déjà, ça c'est sûr que... Et puis, on a récolté à la fin de la fleur de l'acacia. C'est aussi tout le travail de l'apiculteur d'amener les ruches au bon moment, au tout début de la floraison de l'acacia. Parce que si elles ont fait du miel de printemps avant, il faut sortir le miel qu'elles ont pu récolter au début de la floraison et le récolter avant qu'elles aillent éventuellement sur une autre production de miel. Parce que l'abeille, elle, quelque part, elle s'en moque, elle va aller récolter, elle récolte, son travail c'est récolter. Donc le but c'est d'arriver à avoir le miel le plus pur possible. Donc tout le travail de l'apiculteur c'est de contrôler la nature, de voir si la fleur elle va éclore et si elle est prête à fleurir. Et quand elle a fané, de ne pas attendre un mois avant de récolter. Parce que là c'est sûr que les miels d'acacia, il va être mélangé avec d'autres miels, voilà. Voilà. Après, il ne faut pas récolter trop tôt non plus, le temps qu'elles aient le temps de transformer le nectar en miel. Il ne faut pas qu'il soit trop humide. Bon, voilà. Mais il faut quand même récolter rapidement.
Et du coup, une fois que vous l'avez récolté, vous disiez que ça cristallisait. Alors, comment ça se fait qu'en supermarché, on trouve du miel tout liquide
Tous les miels à l'extraction sont liquides. Ça, il n'y a pas de problème. Mais après, selon l'origine du nectar qu'ont butiné les abeilles... que les abeilles vont transformer en miel, il va avoir une cristallisation plus ou moins rapide du miel. Donc il y a des miels qui vont cristalliser très rapidement, naturellement, et d'autres pas. Et après, des miels en supermarché qui restent toujours liquides, ben, si c'est du vrai miel d'acacia, on reprend l'exemple d'acacia, et c'est normal qu'il reste liquide longtemps, mais des toutes fleurs qui restent liquides, je sais pas moi, un an, deux ans, difficile parce que c'est souvent qui va cristalliser, donc peut-être qu'il n'y a pas une adultération, mais on entend dire qu'il y a des stérilisations et des pasteurisations des miels qui se font dans le circuit de la grande surface, ce qui permet justement d'avoir un miel en un squeezer toujours liquide. Bon, ben ça forcément c'est du miel mais qui a été plus ou moins transformé et dont on perd les qualités nutritives quand on a stérilisé ou pasteurisé. Voilà, après faire des contrôles pour être sûr, mais un miel qui cristallise, c'est un phénomène normal et c'est plutôt même gage de qualité. C'est-à-dire que le miel n'a pas été transformé derrière, quoi.
Du coup, votre miel, donc vous le vendez à la ferme, vous avez une petite boutique ?
Je vous dis, je fais de la vente directe le mercredi après-midi, le samedi après-midi. Ensuite, sous rendez-vous, voilà, quand les gens ne peuvent pas venir dans ces créneaux, bon, s'ils m'appellent et qu'on se cale, il n'y a pas de souci, j'accueille les gens. Après, je fais des foires et des salons agricoles. Bon, mais ça va de la foire agricole d'été au marché de Noël. Après, je ne fais pas des marchés fixes de plein vent réguliers comme tous les marchés dominicaux ou le lundi à Caussade. Parce que bon, je suis tout seul à temps plein, quasiment sur l'exploitation, à part un saisonnier sur des gros coups de bourre. Mais sinon, je ne peux pas me permettre d'être régulièrement au même endroit tout le temps parce que c'est trop compliqué pour moi. S'il faut aller aux ruches, il faut y aller. Voilà. Mais après, du coup, j'ai un circuit de revendeurs qui m'achètent du miel dans des magasins. Donc, ça reste du magasin de proximité, épicerie fine, magasin de producteurs ou magasin de proximité qui travaille avec des producteurs locaux. Le but, c'est d'augmenter la vente en direct, justement, un maximum. Et c'est pour ça que j'ai développé un accueil du public pour pouvoir permettre aux gens de faire autre chose que de la vente pure, aussi de pouvoir découvrir le métier d'apiculteur. Et le monde des abeilles, voilà.
Et on peut même acheter son miel en vrac en venant avec ses propres bocaux. Ah oui. Et on trouve même du pain d'épices, des savons, de l'hydromel, de la propolis, énormément de choses en fait, du nougat. Oui. On peut retrouver les contacts donc de l'exploitation de Gianni Costanzo, donc Biotop. Vous pouvez le retrouver sur le guide de la charte produit en pays Midi Quercy. Et également, vous pourrez le retrouver sur Internet, sur son site.
Alors, je n'ai pas de site Internet, mais étant adhérent au réseau Bienvenue à la ferme, la structure nous a ouvert une page dédiée à l'exploitation dans laquelle vous avez toutes les informations aussi.
Mais aussi et surtout sur le site du PETR Midi Quercy, Biotop, on rappelle que c'est bi telle une abeille, hein, B-E-2-E, au top comme au top, avec le pouce levé en l'air. Et vous êtes à Puylarin qu'il faut suivre les petits panneaux pour vous rendre visite. Un grand merci à vous.
Merci d'être venu découvrir mon exploitation.
Merci Gianni Costanzo, c'est très très intéressant, merci beaucoup.
Le MAG du Pays Midi Quercy, c'est tous les lundis à midi, rediffusion à 17h et le samedi à 18h. Et en podcast sur cfmradio.fr.